Alors, je te la lis. Hein. Mousse et mousseline. Soit en chaud, soit en froid, la composition des mousses et des mousselines est la même. Ce qui différencie les deux préparations et donne lieu à un changement d'appellation, c'est que la mousse, chaude ou froide, se fait en grand moule dont la contenance est généralement réglée pour un service, tandis que les mousselines sont moulées soit à la cuillère, soit à la poche, soit dans des moules spéciaux ayant la forme de grosses quenelles. Composition de l'appareil pour mousse et mousseline froide. Additionnez d'abord à la purée de base la gelée et le velouté, entre parenthèses, ou l'une et l'autre si l'on n'emploie qu'un seul de ces éléments. En travaillant légèrement la composition sur glace, ajoutez ensuite la crème fouettée. Observez que l'assaisonnement, ayant une grande importance dans les préparations froides, doit toujours être vérifié et réglé avec soin. Note, la crème ne doit être fouettée qu'à moitié. Si elle l'était complètement, la mousse serait moins fine et d'une saveur plus sèche. Voilà. Alors, donc attends, j'essaie de comprendre, et tu me dis ce que t'en penses. J'ai compris que, dans le fond, c'est à peu près pareil, hein, mousse et mousseline de poisson, hein, qu'il y a une gelée, un velouté. Alors, un velouté, c'est une sauce blanche, enfin, une sauce blanche au bouillon, en quelque sorte. C'est,
voilà, qui est liée à la béchamel, en principe. Hein, avec un roux.
Donc, on fait beurre plus farine, on fait roussir, voilà, enfin, on fait revenir doucement.
On a des roublons.
Oui. Alors dans un cas comme celui-ci, on fait un
roux blanc, je pense. Hein.
Donc on chauffe et ça colore pas trop.
Voilà.
On ajoute un bouillon.
Absolument.
Alors un bouillon de poisson, je suppose.
Oui, oui, poisson ou volaille.
Poisson volaille.
On peut faire des mousselines de volaille.
Ouais.
Mais ceci étant, aujourd'hui le terme mousseline n'est pas du tout celui-ci.
On y reviendra, oui, on y reviendra.
Ouais, ouais.
On y reviendra. Mais enfin, il y a encore tous ces disciples d'Escoffier, donc des associations de cuisiniers dans toutes les régions, qui doivent suivre à la lettre ce que fait Escoffier.
Alors, j'en suis pas sûr.
Ah, tu n'es pas sûr? Tu veux dire que les disciples d'Escoffier trahissent Escoffier?
Oh oui, je crois que c'est... Non, les cuisiniers aiment bien Escoffier parce que c'est un mythe dans notre métier. C'est un mythe.
Chapitre 2 de notre émission consacrée aux mousses et mousselines de poisson. Alors, dicton, tour de main, proverbe, pratique, qu'on fait ça comme ça, ou est-ce qu'il y a des choses qui traînent dans les cuisines, des idées qui traînent sur la préparation?
Spontanément, une mousseline, pour moi, c'est pas ça. Une mousseline, c'est de la chair de poisson, ou de la chair de volaille, ou une chair de viande, qui est passée au tamis. On récupère cette chair.
Donc, passer au tamis, broyer d'abord.
Oui, couper au couteau, hein, puisque avant, ça n'existait pas. Hein. Moi, j'ai connu, lorsque j'ai démarré le métier en 66, je faisais des mousselines de brochet, enfin, des quenelles de brochet, mais qui ont pu être des mousselines. On prenait le brochet. Ce brochet était coupé en petits morceaux. Et au pilon, on passait cette chair de brochet, c'était infernal, quoi, au tamis de crin. Ensuite, cette chair, donc très fine, était récupérée, mise sur glace. On incorporait éventuellement un blanc, quelques jaunes d'œufs, et ensuite on versait doucement la crème liquide et on finissait par un peu de crème fouettée. Et ensuite on cuisait en moule. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'évoque Escoffier. Ces moussines sont déjà des moussines cuites.
Ah oui.
C'est déjà cuit. C'est de la chair de viande ou de poisson qui est pilée. Et ensuite, on incorpore effectivement ce velouté. Si par exemple, on fait un poisson de la sole est passée au tamis, on obtient une espèce de pâte de sole, on incorpore un velouté qui va être à base de poisson blanc, turbo, barbu, sole, et ensuite, effectivement, on va obtenir quelque chose qui va être un peu épais, une pâte, et on allège ça avec la crème mi-fouettée, là, pas de problème, c'est bien vu, et ensuite, on moule.
Ah, alors, j'ai récolté une histoire de ces farces, enfin, appelons ça des farces, si on veut. Par exemple, c'est Marie-Antoine Carême, au 19e siècle, qui se vantait d'avoir éliminé le blanc battu en neige par de la béchamel. C'est-à-dire, dans le temps, on le faisait au blanc battu en neige. C'est-à-dire qu'on avait la chair, du blanc battu en neige, plus de la crème fouettée. Alors lui, il a introduit le velouté. Tu parlais du travail difficile sur le tamis avec le pilon et qui était si pénible.
Oui.
Alors, Mrs. Beaton, qui était à la même époque un auteur de livres de cuisine, elle explique dans ses ouvrages que les quenelles françaises sont les meilleures du monde parce qu'elles gonflent davantage. Alors, et elles gonflent, explique-t-elle, parce qu'elles sont plus travaillées. Alors, c'est exact, dans le fond, si on travaille beaucoup, on introduit des bulles d'air, et après ça peut gonfler.
C'est ça,
Il peut y avoir d'autres choses aussi.
Je peux t'interrompre, oui.
Bien sûr.
Ce qui est intéressant, c'est ce que tu viens de dire. Tu vois, par exemple, ça, c'est pas des choses qu'on a appris, et je suis pas sûr qu'on le sache en cuisine. Plus on bat, plus on incorpore de l'air.
Et à la condition d'incorporer de l'air, parce qu'on peut aussi battre sans incorporer de l'air.
Oui, oui.
Mais si on décide d'incorporer de l'air, le geste va se mettre à incorporer de l'air.
Voilà.
Et à ce moment-là, on aura de l'air.
C'est très intéressant, ça, tu vois. Et ça, on ne le sait pas, spontanément.
La crème fouettée, dit Escoffier, ne doit être fouettée qu'à moitié.
Oui, ça... oui, parce qu'après, elle graine, elle se transforme.
Ah, elle part. Même sur glace.
Oui, puis
sur glace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met le récipient sur de la glace.
Voilà,
sur de la glace.
Voilà. On l'immerge dans de la glace, quoi.
Oui. Ce qui est quand même très étonnant dans toute cette affaire, c'est que, en fait, on nous dit que les mousses et les mousselines, ça soit la même chose.
Oui.
C'est pas normal. Il y a quelque chose qui colle pas.
Absolument.
Hein. Oui. Bon, alors, la solution de cette énigme est la suivante, c'est que, une mousse, qu'est-ce que c'est? On le dira jamais assez. Une mousse, c'est des bulles d'air qu'on met dans une préparation. Hein. Alors, une mousse de poisson, eh ben, ça doit mousser. Et voilà pourquoi si on met sur glace, on fouette avec la crème et ça mousse véritablement. Alors, du coup, mousseline. Ah bah mousseline, ça c'est... Il faut aller chercher en 1642, dans la suite des dons de Comus, et on y trouve qu'on cuit ces farces dans une... C'est-à-dire cette espèce de linge, ce linge délicat, cette espèce de gaz.
Oui.
Donc la différence entre les deux, c'est que les mousses, c'est dans le fond, c'est les deux mêmes préparations, mais les mousses sont mousseuses, alors que les mousselines sont comme des espèces de quenelles, mais cuites dans une mousseline. Donc c'est très différent.
Mais ça, c'est très... Parce que tu vois, je suis... Pourtant, on avait déjà parlé il y a quelques temps de ça, mais c'est vrai que j'ai pas réagi parce que c'est vrai que tu as. On n'a pas cette connaissance. Je dois le dire honnêtement, je suis pas sûr que les cuisiniers puissent spontanément répondre ça. Tu vois, on ne le sait pas forcément. Tu vois,
ouais.
C'est une idée que dans une mousseline.
Bah maintenant, on le sait.
Bah oui.
Donc on va rectifier les appellations. On va dire mousse, ça mousse, mousseline, c'est cuit dans une mousseline.
Ouais, ouais.
Chapitre 3 de notre traité culinaire et savant en compagnie de Pierre Gagnère, aujourd'hui consacré aux mousses et mousselines de poisson. Pourquoi nous avons perdu l'idée de ces mets? Pourquoi on a perdu l'idée? Parce que on n'a pas été chercher en 1642 dans le livre de cuisine ce que voulait dire mousseline. Alors Pierre, je te propose ma modélisation de la mousse de poisson. Je me consacre maintenant à la mousse, ou bien à la farce, ou bien à la quenelle, ou bien à la mousseline, peu importe. Dans le fond, il s'agit de quoi? Il s'agit de prendre du poisson et de le broyer. Le poisson contient une foule de protéines qui sont comme les protéines du blanc d'œuf, dans le fond. Oui. Donc si je rajoute à du poisson broyé un liquide, qui peut être soit une sauce veloutée, soit un bouillon, soit ce que je veux, et si j'y rajoute de la crème, qui peut être éventuellement fouettée, de toute façon, les protéines de ce poisson vont faire comme les protéines du blanc d'œuf quand je cuis un blanc d'œuf sur le plat, c'est-à-dire que ça va faire une masse. Hein. D'ailleurs, on le sait bien, quand on broie de la viande et qu'on fait une terrine, qu'on cuit, et ben ça fait une masse, parce que les protéines coagulent et donc font une masse et emprisonnent tout le reste. Donc, mousse et mousseline de poisson, il s'agit de faire l'équivalent d'une terrine, mais simplement c'est du poisson. La terrine, c'est un peu dense. Alors du coup, dans ces farces-là, celles de mousse et mousseline, ben on les allège. Alors on les allège avec quoi? Ben avec un liquide, parce que c'est vrai que le blanc d'œuf bien détendu avec de l'eau, ben ça fait dans les quiches par exemple, ça fait avec détendu avec du lait, ça fait les quiches chevelottes comme on dit en Lorraine. Ça veut dire qu'elles sont plus moelleuses, hein, plus tendres. Ben, si on allège aussi avec de la crème, ben, ça va donner un peu plus d'onctuosité. Donc il y a pas beaucoup de mystère une fois qu'on a vu ça comme ça, et nous sommes prêts à entamer le chapitre artistique. Chapitre 4 de notre émission consacrée aux mousses de poisson en compagnie de Pierre Gagnère. Alors Pierre, cette fois-ci, c'est l'artiste qui parle. Hein, je crois qu'il faut revendiquer cette idée d'artiste. Hein. On en a discuté souvent, tu es hésitant comme beaucoup d'artistes culinaires. Pourquoi refuser le titre d'artiste culinaire? Est-ce qu'il y aurait des raisons?
Oh, ben la raison, elle est plus psychologique qu'objective, enfin, qu'réelle. C'est-à-dire qu'un artiste, c'est quelqu'un de plutôt dans la lune, comme on dit, quelqu'un un peu côté, un peu en marge, un peu décalé par rapport au quotidien, par rapport à la dureté économique de notre métier. Et c'est vrai que mon côté artistique fait qu'effectivement, je suis plutôt quelqu'un qui arrive à faire abstraction de tout ce qui est autour lorsque je rentre dans mon histoire. Ce qui est quand même pratiquement le cas toute la journée, je peux arriver à complètement occulter l'environnement économique dans lequel je travaille, ce qui m'a effectivement joué des tours il y a quelques années.
Donc c'était la plus belle démonstration, c'était une sorte de couronnement artistique.
Oui, enfin,
oui, ça coûte
être un artiste,
cher,
mais... être un artiste maudit. Non, ça m'intéresse plus tellement, quoi.
Oui, on a le droit d'être un artiste heureux.
Oui.
Picasso n'a pas souffert beaucoup.
Oui.
Non, mais donc on a le droit d'être un artiste heureux.
Oui. Mais ce qui est évident, c'est que le côté artistique, c'est cette fulgurance qui m'étonne moi-même lorsque on a une idée, ce qui est rare d'ailleurs, hein, ce qui malheureusement n'est pas tous les matins. Et l'artiste, c'est la personne qui va capter une onde que l'autre n'aura pas capté et va savoir la transcrire, la mettre en forme différemment et de façon complètement nouvelle. Voilà. Et c'est ça l'artiste par rapport à l'artisanat. C'est cette espèce de côté absolument magique où il y a un moment, hop, il y a une espèce d'explosion dans le cerveau et qui, hop, on dit, ça peut pas être autrement. Et c'est autrement, et ben, effectivement, personne n'y a pensé.
Ouais. Est-ce que tu as déjà vu des gens pleurer ou rire dans ton restaurant ?
Oui, c'est arrivé. Je l'analysais d'ailleurs. C'est pas que la nourriture, c'est une combinaison d'éléments qui font que les gens, face à ce qu'ils mangent, ils vont éprouver une espèce d'émotion particulière, comme quelqu'un va se mettre à pleurer devant un très beau paysage ou en écoutant une musique qui va leur toucher l'âme. Et ça, c'est la magie de l'homme, c'est la magie de l'art, effectivement. Et l'art rend meilleur, rend plus beau, rend plus doux. Et c'est pour ça que notre monde a besoin d'artistes, a besoin de gens qui n'ont pas en tête des notions de pouvoir, des notions d'argent, des notions de puissance qui vont pour écraser les autres. L'artiste, lui, son seul projet, c'est le bonheur. C'est pas le bonheur d'ailleurs, l'émotion. C'est l'émotion. C'est-à-dire, c'est être capable à travers une œuvre faite par un homme que cette œuvre elle donne quelque chose qui sort les tripes de l'autre, qui l'élève au lieu de le plomber.
Ouais. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas temps dans ce 21e siècle, est-ce qu'il n'est pas temps enfin de faire des distinctions qui s'imposent? C'est-à-dire, en cuisine, il y a l'artisan, celui qui fait griller un steak dans un bistrot, il le fait bien parce qu'il reçoit des gens et il se donne du mal. De la même façon qu'un peintre en bâtiment doit éviter les coulures, griller un steak, on doit le faire bien, sur les deux faces, correctement, enfin, conformément aux canons habituels qui font qu'on reconnaît un steak bien grillé. Ça c'est le cuisinier artisan, et puis à l'opposé, il y aura le à côté, il y aurait le cuisinier artiste qui utilisant les mêmes pinceaux, les mêmes brosses, etc., n'aurait plus comme mission d'aller repeindre le mur, mais simplement de peindre la montagne Sainte-Victoire et de faire émouvoir les gens. Tu l'imagines comme ça?
Non, il faut garder, je pense qu'il faut, il y a pas rien à changer, il y a...
Mais ça permet aux gens de se situer. On pourrait se situer en disant, bah tiens, je fais de l'artisanat ou bien je fais de l'art.
Oui, mais c'est pas
nécessaire.
Mais c'est pas à moi de le décider. C'est le public qui va le décider.
C'est le public qui va le décider. Oui.
C'est pas à nous de le décider. Et puis les gens vont mettre une notion artistique. Tout le monde n'a pas la capacité à juger ça.
Alors, du coup, je te propose une autre distinction. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'il y ait des cuisiniers qui soient des interprètes et d'autres qui soient des compositeurs?
Ah oui, ça j'aime beaucoup cette théorie que tu as. Effectivement, il y a des gens qui interprètent admirablement bien une partition et quelques individus qui, eux, vont créer. Et, pour aller dans ton sens, quelqu'un qui crée ne va pas être forcément le meilleur exécutant.
Le meilleur interprète de son
œuvre. Sa propre œuvre.
Ah oui.
Moi, je vois bien, aujourd'hui, les gens qui m'entourent sont parfois plus à même, enfin, jusqu'à un certain point. Mais quand même, il y a toute une partie préparatoire qui, finalement, est mieux faite par eux. Où l'artiste intervient, enfin, en cuisine, par exemple, c'est un moment...
Interprète ou l'artiste-compositeur?
L'artiste à la fois interprète et compositeur, oui. Parce que les deux, c'est le côté intéressant de notre métier. On n'est pas des manuels. On n'est pas des manuels. Mais en aucun cas, je me considère comme un intellectuel. J'ai pas fait d'histoire de l'art, je sais même pas trop lire de cuisine, j'en ai quelques dizaines, je n'ai même pas passé ma vie dans les vieux bouquins. Ce que je le fais de façon extrêmement spontanée, à la fois spontanée et réfléchie quand même, mais il y a un moment où je trouve une idée, et il y a un moment où, qui est de l'ordre de quelques instants, où les choses sont en place, et je vais être le trublion qui va déplacer le jeu, et qui va reconstruire l'assiette de telle sorte que par un peu plus de ceci, un peu moins de cela, un grain de poivre, un petit peu de sel, une petite incursion d'une herbe particulière, et qui n'avait pas été prévu, fait qu'il va se passer quelque chose dans l'assiette.
Et dans le cas des mousselines de poisson, par exemple, ou des mousses de poisson, alors, est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que tu en sers?
Bien sûr, oui.
Tu les fais comment?
Oui, parce que c'est une texture. Bon, bah, par exemple, j'aime beaucoup les servir dans des assiettes. Et finalement, la mousseline, il y a une espèce de socle gustatif qui va remplacer un jus.
Quand tu dis ta mousseline, c'est une mousseline ou c'est une mousse, dans ce cas précis?
Une mousse qui est cuite.
Oui.
Qui est très, 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 très légère.
Donc, dans l'assiette elle-même.
Oui. Par exemple, des Saint-Jacques. La Saint-Jacques fonctionne admirablement bien. La Saint-Jacques est riche en albumine. Une belle Saint-Jacques fraîche.
En protéines, pardon.
Et c'est extraordinaire. On obtient des mousselines d'une subtilité.
Des mousses, dans ce cas-là.
Ah oui, formidablement légères. Et là, après, on peut mettre dessus des truffes, on peut mettre des poireaux, on peut mettre des salades crues, on peut mettre une fournée d'épinards, on peut mettre du chou. Enfin, on peut mettre un jus dessus. On peut mettre par exemple, avec les barres de la salade, qu'on peut faire un espèce de petit jus avec de la manzanilla, avec du citron. Enfin, quelque chose de très, très, de la mélisse. Et là, on rentre vraiment dans un domaine artistique, mais avec, au départ, une belle connaissance technique du produit.
D'accord. Donc, on retient nos mousses de poisson cuites dans un fond d'assiette sur lequel on construit un objet créé par Pierre Gagnaire, interprété par ceux qui le voudront. Mais après, il restera la question des goûts et des associations. C'est pour une autre fois. Pierre, je te donne rendez-vous donc lundi prochain. Nous parlerons de haricots verts et de la grande question des couleurs.
Oui, intéressant ça.
Traité culinaire et savant par Hervitis. Réalisation Bruno Sourcy. Demain, Philippe Conticini.